RMC. M comme Maïtena. Maïtena Birabin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, Michel et Augustin, deux copains qui ont réussi ensemble en faisant des gâteaux sympas. Ils sont les rois de la com, mais ils ont aussi des valeurs communes qui datent de l'enfance. Lesquelles? Ils vont nous le raconter et vous répondre à vos questions. Tout à l'heure, vous pouvez les appeler au 3216. Mais d'abord, l'anorexie. Cette maladie touche principalement les filles. Elle est moins répandue que la boulimie. C'est pourtant toujours d'elle que l'on parle. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Comment s'en sortir? Qui peut aider? Quelle place peuvent prendre les parents? Si vous êtes concerné, vous êtes certainement très inquiet. N'hésitez pas à nous appeler. Et la loi, que dit-elle? Et que peut-elle? Jérôme et moi, nous vous attendons au 3216 et sur Twitter, hashtag M quand même.
RMC, M comme Maïtena.
Je me disais, hier, j'ai mangé tant et aujourd'hui, je dois pas manger plus qu'hier.
Quand on est anorexique, on est persuadé de pouvoir vivre sans manger.
En France, 600 000 personnes, essentiellement des femmes, souffrent de cette pathologie mentale. Des enfants, des adolescents, mais aussi beaucoup d'adultes.
C'est quoi être anorexique?
D'abord, il faut bien savoir que les causes exactes, on ne les connaît pas.
C'est l'anéantissement du corps, de toute la relation aux aliments.
La vie est assez dure, on n'est pas obligé de s'infliger de telles souffrances. Et puis, ça fait tellement souffrir l'entourage.
Maïtena Birabin.
Bonjour Solène Revol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre qui s'intitule « Une petite voix me disait de maigrir encore ». C'est un document qui sort chez IXO. Vous l'avez écrit en combien de temps ce livre ?
Je l'ai écrit en un mois, ouais. Quand j'étais à l'hôpital.
Ouais. Ça fait du bien d'écrire ?
Ouais, ça ouais. A été comme une thérapie.
Ouais. Et du coup, quand on fait une thérapie, on pense toujours guérison. Est-ce que vous avez l'impression d'être guéri aujourd'hui de l'anorexie ?
Ouais, après 2 ans de
bagarre.
Voilà, de ouais. Combat. Ouais, je peux le dire maintenant.
Ok, voilà, on vous voit, vous êtes radieuse avec un beau sourire. Est-ce que vous connaissez ce monsieur qui est devant vous, Olivier Véran ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ?
Non.
Non. Alors en 2015, il y a eu pourtant l'amendement Véran. Bonjour Olivier Véran, je rappelle
Bonjour.
Que vous êtes député. Vous avez bataillé donc en 2015 pour introduire l'amendement Véran dans une loi santé. Vous demandiez à l'époque d'interdire l'activité de mannequin à toute personne dont l'indice de masse corporelle était trop faible, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet amendement ?
Ben, il a été adopté par le Parlement, ça a été un gros combat. J'avais été battu en première lecture en commission, j'étais revenu en deuxième lecture et je l'avais obtenu l'adoption de cet amendement.
Ouais.
Ça avait fait quand même beaucoup de bruit en France puis à l'étranger, ça m'avait même étonné, hein, sur tous les continents en fait. Comme c'est, la France est une place forte de la mode mondiale,
oui, bien sûr.
Ça avait engendré vraiment une réflexion sur cette question. Ensuite, il a fallu attendre près de 2 ans
juin 2017.
Pour que la ministre sorte enfin un décret d'application. Donc
ouais.
La loi est maintenant applicable. Et ben, je continue avec mon bâton de pèlerin maintenant... d'interpeller le milieu de la mode pour leur dire que la loi existe, qu'elle doit être appliquée. J'ai eu, on pourra en parler si vous voulez, mais un entretien avec un patron d'une des deux très grosses maisons
LVMH mode. Ou Kering, un des deux.
Voilà, un dialogue assez singulier.
C'est-à-dire
un temps qui montre qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir.
Pourtant, ils ont pris des engagements. Alors, on va en parler, on va y revenir, bien entendu. Je commence par ça, Solène, parce que vous, le mannequinat, ça n'a jamais été un modèle. C'est, effectivement, il y a des ravages qui sont réels du fait des images d'une maigreur insensée des jeunes femme qui défile, mais ça n'est pas forcément lié, l'anorexie et le mannequinat. Vous n'aviez aucune envie, aucun rêve, aucune identification
non,
à ces jeunes femmes.
Non, j'ai jamais eu envie de devenir mannequin ou quoi que ce soit, mais je pense que la société impose quand même une image où si...
Oui,
l'idée,
oui, oui.
L'idée d'être bien, c'est l'idée d'être comme celle qui passe à la télé.
Ouais.
Et...
Ah bah moi, je suis passée longtemps à la télé, je fais du 42. Hein. Vous pouvez être comme moi, les filles, détendez-vous, ça va aller vachement bien, vous allez voir. Non mais franchement, non mais, mais bien sûr que vous aviez un modèle de minceur, de perfection, qui est bon, généralisé, mais
ouais.
vous aviez aucune référence extérieure, c'était
non.
Vous avec vous-même.
Voilà, c'était ça, j'avais l'impression de ne pas être comme il faut, et que
ouais.
Si j'avais des choses qui me tracassaient dans ma vie, ça pouvait être lié à ça, et j'essayais de devenir meilleur en perdant du poids.
En préparant cette émission, j'ai découvert quelque chose. Je pensais vraiment savoir beaucoup de choses sur l'anorexie, et j'ai découvert que l'anorexie et l'anorexie mentale, ça n'était pas la même chose, Olivier Véran. Vous avez la définition de la nuance.
L'anorexie, c'est un terme finalement médical assez générique sur la privation de nourriture avec une maigreur excessive. L'anorexie mentale est une maladie mixte, je dirais, psy et somatique du fait justement de la privation de nourriture.
Ouais. 1% des adolescentes souffrent d'anorexie. C'est bien sûr énormément de monde, mais c'est 1%. 3% souffrent d'hyperphagie boulimique et c'est toujours de l'anorexie dont on parle. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, Olivier Véran?
Pourquoi? Bah, peut-être parce qu'il y a 1% des malades de l'anorexie qui meurent de l'anorexie chaque année.
Ouais, et on ne peut pas mourir de
maladie. C'est la maladie psychique qui tue le plus dans notre pays.
Ouais.
Donc c'est quelque chose de catastrophique. Puis ça renvoie à l'impuissance que peuvent avoir l'entourage parfois des personnes qui se privent de nourriture. Ouais. C'est toutes ces difficultés. Avec un certain nombre de combats qui ont été médiatisés aussi autour de cette maladie au cours des dernières décennies. Et puis tout ce que ça renvoie dans certains milieux particuliers. On a parlé du milieu de la mode, mais aussi ailleurs.
Ouais.
Quand vous voyez une ado, la plupart du temps c'est une ado qui commence à se priver de nourriture, à maigrir, que vous vous sentez impuissant pour l'aider, une espèce de spirale infernale dans laquelle s'enferment les ados qui sont concernés par cette maladie, forcément ça vous touche au cœur. Enfin,
Oui, l'image est très forte évidemment quand on arrive à l'apercevoir, ce qui n'est évidemment pas votre cas, Solène. Quand vous maigrissiez, vous êtes allée jusqu'à peser 35 kilos. Alors je ne sais pas si vous êtes vous concernée, si vous êtes parent d'une jeune femme, mais alors ça serait encore mieux, j'adorerais avoir au 32-16 quelqu'un dont un garçon souffre d'anorexie, car c'est aussi possible, Olivier Véran.
10% des malades sont des garçons.
Pourquoi est-ce que c'est aussi rare?
Il faudrait des études sociologiques qui se penchent sur la question. Je suis pas sûr qu'on ait une réponse aujourd'hui totalement claire. L'identification au monde de la mode, oui. L'image corporelle, la pression sociale qu'on met aussi sur les jeunes filles, l'éducation, le genré, extrêmement genré. Ouais. Voilà, c'est tout ça, c'est composite. Donc si on fait évoluer l'éducation d'ailleurs et qu'on met moins la pression aux gamins, je pense qu'on fera à la fois reculer la maladie et qu'on verra une équilibration progressive entre garçons et filles.
C'est très violent ce que vous êtes en train de nous dire. Donc c'est culturel si ce sont surtout des filles. Quand vous avez passé de longs mois, vous, Solène, à l'hôpital, est-ce qu'il y avait des garçons avec vous?
Ouais, j'en ai connu.
Et vous avez discuté avec eux, vous avez échangé, vous savez pourquoi eux, ils ont été touchés par ça?
C'est vraiment étrange parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir vécu les mêmes choses. À la fois, on vit la même maladie, mais les causes sont jamais exactement expliquées pareilles.
Ouais. Mais il y a des points communs quand même?
Oui.
Vous retrouviez des points communs avec les garçons?
Oui, c'est souvent le perfectionnisme, l'envie d'être... comme il faut, de se sentir bien avec nous-mêmes.
Donc c'est vraiment la réponse de la pression de la société qui pousse et qui vous fait, vous, hyper réagir. Vous venez d'employer le mot perfectionniste, c'est toujours présent chez toutes les anorexiques, l'envie de perfection?
Je dirais la plupart.
La plupart, C'est toujours vrai pour vous? Vous êtes perfectionniste encore aujourd'hui?
Oui, je le suis encore.
Ouais. Bon, ça peut être une qualité par ailleurs. C'est
ça, il faut en faire une qualité.
Il faut en faire une qualité et il faut arrêter d'en faire un moto dans la vie où tout doit être parfait tout le temps. Vous n'y arriverez pas, vous le savez. Parce que j'ai essayé avant vous et moi je suis géniale et je n'ai pas réussi, donc ce n'est pas possible.
Il y a des études scientifiques qui montrent que l'un des moteurs principaux de l'anorexie mentale, c'est davantage le plaisir de maigrir davantage que la peur de grossir.
Oui.
Voilà, c'est
un vertige, absolument.
C'est moins le repoussoir de l'idée d'être de devenir gros que vraiment l'envie de maigrir, la satisfaction que peuvent éprouver les personnes à avoir énormément maigri.
Mais on est dans l'ordre de l'addiction, de toute façon. À partir du moment où on se met à maigrir, c'est un vertige.
C'est une forme d'addiction, oui, tout à fait.
Ouais. Pierre est avec nous au 32-16. Bonjour Pierre, merci d'être là.
Bonjour Maïtena, merci de me prendre à l'antenne.
Ben non, on vous en prie Pierre, c'est nous qui vous remercions. Alors racontez-nous, vous avez deux petites filles.
Oui, j'ai deux petites filles, un petit garçon. Et c'est vrai que pour ma première fille, elle a d'énormes problèmes avec la nourriture. Alors, c'est vrai qu'on allait voir les médecins parce que elle accepte de manger très très peu de choses. Elle mange quasiment rien, aucun légume, absolument rien.
Pierre, elles ont quel âge vos filles?
Alors ma première, elle a 10 ans et ma deuxième, elle a 7 ans.
C'est celle qui mange peu?
La première, c'est celle qui mange très très peu. D'accord. Elle mange absolument rien.
Ouais.
Pas plus tard qu'hier, par exemple, j'ai récupéré mes enfants le soir chez la nounou. Et elle avait rien mangé à midi à la cantine parce que c'était des légumes, genre des blettes et des carottes.
Ouais.
Elle a absolument rien mangé. Chez la nounou, comme elle n'était pas chez elle, elle a refusé de manger aussi. Et du coup, quand elle arrive à la maison le soir, moi j'accepte qu'elle mange, entre guillemets, des conneries, quoi, des gâteaux, des barres de chocolat, des choses comme ça. Et ça, c'est des conseils des médecins. Alors, je sais pas si on allait voir les bonnes personnes ou pas, mais ils nous ont dit surtout de laisser la manger ce qu'elle veut et surtout pas la bloquer avec la nourriture parce que c'est ça qui risque de déclencher une anorexie violente, quoi.
Alors, moi, je sais pas trop quoi vous dire. On n'est pas médecin ici autour de cette table, Pierre, mais ce qui est sûr de mes vieux souvenirs, on entendait cette phrase et je suis sûr que vous l'avez entendu vous aussi, Pierre. Les enfants ne se laissent pas mourir de faim, si. Ça arrive parfois que les tout-petits refusent de manger et l'anorexie n'a pas d'âge en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement surveiller. Je suis pas du tout en train de parler de votre fille, attention Pierre, on est bien d'accord. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de diagnostic aujourd'hui? Le médecin de famille n'est pas capable de vous dire de quoi il retourne en ce moment? C'est assez étonnant quand même.
Non, alors c'est vrai qu'on s'en inquiète pas parce qu'elle est pas, toute maigre du coup, parce qu'elle mange un peu, elle mange quand même du coup. Mais c'est vrai que non, il a pas de raison. Lui, il nous dit, c'est pas grave, à des âges aussi bas, entre guillemets, c'est encore pour lui, ça reste jeune, 10 ans, il y a pas encore d'inquiétude à avoir. Donc laissez-la faire, elle va prendre conscience toute seule, qu'il faut manger un peu de tout dans la vie, mais bon. Voilà, dans notre quotidien aussi, on essaye de pas trop s'alarmer de ça.
Mais oui.
Mais
ça vous pèse. Non, mais vous nous appelez, ça vous pèse. C'est forcément très inquiétant. On se dit toujours que quelqu'un qui mange pas, bien sûr, c'est même si on a un appétit d'oiseau. On va se tourner vers Olivier Véran, qui est neurologue, pas non plus spécialiste de ça, mais vous avez ça vous semble possible ça, ce que vit Pierre avec sa petite.
En fait, à des âges même très bas, parfois il y a des enfants qui ont une sélection des aliments ou des enfants qui vont avoir des comportements alimentaires où il va être très difficile de les nourrir. Ça provoque souvent beaucoup d'anxiété chez les parents, ce que je peux totalement comprendre. Il faut effectivement regarder le poids de l'enfant, regarder
la
son
courbe.
Comportement, la courbe de poids et de taille, la croissance. Et si jamais il y avait des cassures ou vraiment une inquiétude très forte, aller consulter dans un centre spécialisé. Il y en a une cinquantaine en France, spécialisé dans ce qu'on appelle les TCA. Qui est un terme générique pour troubles des comportements alimentaires dans lesquels on trouve tout ce qui est surpoids ou, à l'inverse, boulimie, anorexie, pour avoir une évaluation. Si vraiment l'interrogation se fait forte, autant aller consulter quelqu'un qui sera spécialisé, qui pourra faire une évaluation générale de l'état de l'enfant.
Il y a un nom pour ces centres ? Il y a un nom générique ?
C'est les centres experts en TCA, souvent dans la pédopsychiatrie.
TCA.
Dans la pédiatrie.
Solène nous le confirme aussi, tous les centres TCA sont les bons endroits où aller. Pierre, il faut que vous tapiez ça sur internet autour de vous et commencer par vérifier.
Sans problème, j'ai profité de ce conseil, on va se renseigner.
Et puis vérifier sur la courbe dans le carnet de santé de votre petite. Hein.
Alors, au niveau de la courbe, pour l'instant, elle est bien, mais parce qu'elle se nourrit de n'importe quoi.
Oui. Bon, allez, passez un petit coup de fil quand même, comme ça vous serez rassuré, Pierre. Et c'est vrai que l'inquiétude, elle est importante. Mais non, merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter au 3216, encore une fois, si vous êtes, si vous avez compris comment détecter, comment aider votre enfant. Vous allez nous dire, Solène, ce qu'ont pu faire vos parents. C'est pas forcément les parents toujours la solution. Parfois oui, parfois non. Et si vous avez un garçon, ou si vous connaissez un garçon, ou si vous êtes un garçon et que vous avez été anorexique, 3216, on vous attend.
RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena.
Allô patron ?
Des nouvelles ?
De Lidl Voyage ? Oui, un séjour 8 jours 7 nuits en Tunisie à Zarzis. En chambre double à l'hôtel Eden Star 4 étoiles pour 299€. Et c'est une offre exclusive en all inclusive.
Ah bah si je comprends bien, tout est compris.
Eh ben voilà, vous avez tout compris.
Eh ben on est mal, hein. Tout mal.
Lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour à partir de 299€ par personne en chambre double tout compris. Offre valable du 27 mars au 2 avril inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr.
Et si on parlait Renault Occasion ?
Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment ?
Très bien, on y est allé avec notre 4 jarres d'occasion.
Ça vaut vraiment le coup alors ?
Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1€ de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions.
Et le Mont-Saint-Michel ?
Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1€. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
Bah après la tempête, on a eu une journée sans électricité. Conséquence, pas de clients dans le restaurant, donc pas de recettes. Et là, je suis bien content d'être assuré à la MAPA.
L'assurance multirisque commerce MAPA couvre votre perte d'exploitation en cas de carence accidentelle de fournisseur. Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains. En ce moment, 2 mois offerts sur la multirisque commerce MAPA pour tout nouveau commerce assuré. Conditions sur mapa-assurance.fr.
Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour.
Pour Pâques, chez Carrefour, il y a des tickets de 10€ cachés dans les œufs Kinder. Alors comme on dit, la chasse est ouverte. Mais attention, hein, c'est que chez Carrefour. Résultat des courses, si je gagne, je pars faire le tour du monde et je commence par l'île de Pâques.
Pour Pâques, tentez de gagner 10€ si vous trouvez l'un des 10 tickets cachés dans les œufs Kinder. Et c'est en exclusivité chez Carrefour, Carrefour Market, Contact, City et Express. Carrefour.
Kinder surprise par 4, 80 grammes, je soumis à condition d'achat, modalité et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, M comme Maïtena.
L'anorexie est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans.
Mais elle se poursuit parfois à l'âge adulte.
On sait qu'un certain nombre de mannequins sont poussés à perdre davantage de poids au fur et à mesure de leur carrière. Cette pression sociale qui s'exerce au travers des images véhiculées par la presse y contribue.
Alors les filles, arrêtez de penser aux magazines. Ces filles sont chics, mais elles sont toutes un brin anorexique. Ah ça c'est sûr, Aglaé doit bien attirer les hommes. Mais à chaque pas, elle manque de tomber dans les pommes.
Maïtena Birabin.
Je suis en compagnie de Solène Revol qui signe Une petite voix me disait de maigrir encore. C'est un document chez IXO. Vous racontez, Solène, l'histoire, je cite, d'un combat réussi contre un terrible mal du siècle. L'anorexie mentale, c'est effectivement un terrible mal du siècle dont on parle régulièrement. Olivier Véran est député de la République, s'est battu en 2015 pour faire passer l'amendement Véran dont nous avions tous énormément entendu parler. Il s'agissait d'interdire l'activité de mannequin à toute personne dont l'indice de masse corporelle était trop faible. Cette loi a été adoptée et dorénavant, il y a la loi anti-mannequin trop maigre qui est en vigueur en France. Nous disions dans la première partie de cette émission que c'était surtout des filles qui étaient concernées, même s'il n'y a pas forcément toujours un syndrome d'identification au mannequin, mais la pression sur les femmes pour la maigreur est telle que ça engendre des désastres du côté des filles. Et nous avons avec nous Violaine au téléphone qui a un fils qui est concerné. Merci Violaine de nous appeler au 3216. Soyez la bienvenue. Comment allez-vous?
Écoutez, ça va.
Ça va?
Oui, très bien.
Bon. Vous êtes donc la maman d'un des rares garçons qui soit concerné par l'anorexie. On expliquait tout à l'heure que c'est Solène qui nous disait que à l'hôpital où il y avait des garçons aussi, ils étaient eux aussi victimes de la pression, de l'image. Et vous avez ce sentiment-là pour votre fils, Violaine?
Alors moi, non, je dirais pas de la pression de l'image, c'était plutôt des problèmes familiaux. Je pense que lui a pris ce biais-là suite à la séparation de séparation.
Ouais.
Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est le désarroi qu'on a, donc évidemment face à la maladie, parce que mon fils 1m90 pour à peine 55 kilos.
Ouais. Alors pour tout vous dire, on avait les chiffres parce que vous les avez donnés à Jérôme qui nous les a communiqués. Et Olivier Véran a calculé l'IMC de votre fils qui effectivement est très 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 bas, quoi.
Voilà. Et en fait, donc moi, on était, j'habite dans un lieu de désert médical, donc on est lyonnais à la base, et toutes les institutions nous ont fermé la porte parce que c'était un garçon, et que il ne prenait que des filles.
Et alors comment vous avez fait, Violaine? Comment vous avez fait?
On n'a pas fait. On a géré autrement avec le médecin de famille, avec la famille. Et en plus de ça, mon fils est cuisinier. Donc voilà. Mais c'est on est pour les garçons, il y a vraiment un problème d'accueil.
Olivier Véran, vous l'avez déjà entendu cette histoire de garçon qu'on ne peut pas accueillir?
J'ai entendu l'histoire de filières spécialisées qui sont insuffisantes pour assurer une offre de soins pour toutes les personnes qui sont en demande de soins, quel que soit leur sexe, garçon ou fille.
À Lyon, il y a trois vraiment centres, aucun ne prend de garçon.
Oui, mais de façon générale, alors ça c'est une situation qui est effectivement complètement invraisemblable. Ça c'est la première fois que j'entends, et j'en suis absolument désolé pour vous et pour votre fils. Néanmoins, oui, c'est vrai que les centres spécialisés se structurent, que ça coûte de l'argent, qu'il faut mettre des moyens. Les équipes sont souvent très en demande de pouvoir développer des moyens, des capacités d'accueil supplémentaires pour faire face à toute la demande. Et donc les réseaux spécialisés sont en général saturés sur tout le territoire national.
Vous étiez où, vous, Solène, où il y avait des garçons?
J'étais à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne. Bon, alors c'est déjà une info, Violaine. Je ne sais pas si ça peut vous aider.
Mais maintenant, il n'a plus l'âge. Il est plus en. Et parce qu'après, il y a aussi le problème de l'âge. C'est qu'à partir de 18 ans,
il est adulte. Il est responsable.
Dans les services psychiatriques.
Ouais.
Moi, je suis désolée. Je n'avais pas du tout envie d'envoyer mon fils dans un service psychiatrique général.
Et les maisons des ados vous ont pas aidé, ont pas été utiles?
Non, parce que toutes les demandes qu'on a faites nous ont été refusées parce que c'était un garçon.
Très très étonnant. Est-ce que vous en êtes où là? Il en est où là? Il s'en sort?
Petit à petit, oui. Il est très maigre, hein, ça c'est sûr. Il a une mauvaise alimentation. Dès qu'il est très contrarié, ça refait surface. Bon, après, je pense qu'il aura évidemment des conséquences. Sur sa santé, il en a déjà sur ses dents. Il n'empêche que on sait, toutes les portes se sont fermées devant nous parce que c'était un garçon.
Alors merci déjà de votre appel infiniment, Violaine. Solène, je voyais hocher la tête. On le disait tout à l'heure, l'anorexie, on en meurt. On en a conscience quand on ne mange pas. On a conscience qu'on fait mal à son corps parce que bien sûr, évidemment, je vais dire une banalité, mais dont on n'a pas tous toujours conscience. On vit de ce dont on se nourrit. En mangeant, on remplit la machine et on la fait fonctionner. On fait pousser les cheveux, les ongles, on permet au calcium d'aller dans les dents, de se fixer dans les os. C'est ça, se nourrir, en fait. Vous aviez conscience que vous stoppiez tout ça?
Non, en fait, c'est complètement dingue, mais avec l'anorexie, on est complètement dans l'euphorie de perdre du poids, justement, d'avoir un corps qui nous plairait plus. Mm-hmm. Et on a l'impression qu'on est en forme et qu'on se sent mieux comme ça. Et en fait, cette maladie, elle prend tellement le dessus qu'on se rend plus compte de tout ce qui est dangereux, tout le reste, et on se voit pas maigre. Et oui. Du coup,
quand vous dites on se voit pas maigre, vous ne vous voyez vraiment pas maigre,
non,
quoi. Quand vous pesez 35 kilos, vous vous trouvez trop grosse encore.
Ouais, c'est ça en fait. Je me disais, c'est bien, j'ai perdu du poids, mais j'avais l'impression que c'était même pas assez.
Ouais. Ah, mais quand même, vous vous rendez compte, vous dites, ah, c'est bien, vous vous félicitez.
Je le savais parce que je le voyais sur la balance, mais au niveau du miroir, non, j'arrivais pas.
Vos vêtements, ça ne vous parle pas. Vous dites pas, tiens, je passe de ça à ça. On ne se rend pas compte.
Je le voyais dans les vêtements, mais j'arrivais pas à m'en rendre compte vraiment dans le miroir, en fait. J'arrive pas à me le persuader.
Et à chaque fois, en fait, il faut toujours aller plus loin. C'est toujours ça. Et le but, c'était quoi, le but pour vous?
C'était de me sentir bien dans mon corps.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois que je me disais, bon, là, c'est peut-être bien, même si j'essayais un peu de remanger plus, je me disais, non, je vais redevenir comme avant et je voulais pas.
Ouais. Alors, il faut expliquer ça aussi, vous le racontez extrêmement bien. Pour vous, manger un bout de quelque chose, c'est prendre 4 kilos, quoi.
C'est ça.
C'est pas juste, je mets un petit peu de beurre sur ma tartine. Vous pensez vraiment que vous allez prendre 4 kilos.
Parce qu'en fait, c'était tout le temps ne pas manger plus que ce que j'avais mangé la veille.
Ouais.
Parce que j'étais fière, je me disais, j'ai résisté. Mmh. Et le lendemain, il faut pas que je craque parce que sinon, j'allais détruire tous mes objectifs.
Ouais. Alors après, il y a ce que vous racontez aussi parfaitement, qu'on connaît, et Olivier Véran, vous avez forcément travaillé dessus, c'est les stratégies d'évitement, parce que vos parents sont là, ils voient bien que vous maigrissez, ils voient bien que vous ne mangez pas, et il y a toutes les stratégies que vous mettez en place qui sont extraordinaires pour ne pas vous faire avoir, quoi. Vous avez toujours mangé ailleurs, vous avez pris un gros goûter, donc vous dînez pas, vous avez...
C'est tout le temps des mensonges pour éviter de se l'avouer, en fait.
Ouais, ouais. Et on rappelle que vos parents font attention à vous, vous vivez avec eux, votre père est médecin. Est-ce qu'ils l'ont vu bien avant vous, ou quand est-ce qu'ils ont compris, eux?
Alors, l'amaigrissement était très progressif, donc au début, c'était plutôt mis sur le fait que je faisais beaucoup de sport.
Oui, parce qu'en plus, vous avez mis une pratique du sport excessive, intensive, pardon.
Mes parents ne s'inquiétaient pas plus que ça, et j'ai perdu mes règles, donc c'est un signe de dénutrition.
Ouais.
Et ma mère s'est alertée à partir de ce moment-là, où elle essayait de me mener un peu à me dire « va consulter, fais quelque chose ». Et à la fois, je le cachais tellement bien, je montrais tellement l'image de quelqu'un qui contrôle tout, qui se sent bien.
Ouais.
C'était difficile de me forcer. Et je voulais pas mettre un mot sur ça parce que j'arrivais pas à me l'avouer à moi-même.
Le désarroi des parents doit être sidérant, Olivier Véran. Vraiment, parce que on vous entend, on voit, et quand si on a des enfants, on se rend bien compte. D'extérieur, on se dit, mais non, c'est pas possible, on le voit. Non, tous les parents qui nous écoutent savent très bien qu'on peut se laisser embrouiller, quoi.
Le sentiment d'impuissance
est terrible.
Au moment de la loi, je m'étais posé la question de savoir s'il fallait interdire les blogs qui font l'apologie de l'anorexie sur Internet.
Oui, absolument, vous en parliez. Et c'était à une époque où on mettait en avant l'extrême maigreur, vraiment de manière très choquante.
Je me suis rendu compte et on m'a sensibilisé sur la question et j'ai changé d'avis. C'est important de changer d'avis en politique quand on voit qu'on se plante.
C'est mieux,
Que ces blogs étaient majoritairement tenus par des ados qui, certes, donnaient, entre guillemets, des conseils maigreurs aux ados eux-mêmes anorexiques, comme manger des boules de coton, ça vous coupe la faim et ça vous évite de vous jeter sur la bouffe, etc. Sur le fig gap, qui est l'espèce d'écart entre les cuisses, qu'il faut avoir l'espace le plus grand, le plus large possible entre les cuisses pour comme un critère de beauté. Et en fait, souvent pour ces ados, pour ces jeunes filles, c'était le seul moyen d'expression qu'elles avaient. Et c'est ce qui les reliait au monde extérieur et ce qui permettait aussi par moment
aux
parents et à l'entourage de communiquer. Oui. Et donc la censure sur Internet était compliquée. Par contre, il faut qu'on développe évidemment une offre de santé publique en regard de ces blogs pour expliquer aux ados, attention, faire de la prévention, de l'accompagnement. Mais oui, c'est souvent un isolement. Les jeunes s'isolent énormément dans leur comportement. Il y a beaucoup de choses masquées qui vont se lever pour aller vomir parfois, qui vont avoir de très très lourdes angoisses à l'idée de devoir manger, des stratégies d'évitement, ce qui bouffe beaucoup d'énergie. Souvent, les résultats scolaires s'en ressentent. Vous ajoutez là-dessus la fatigue, vous ajoutez l'hyper-effort sportif chez certaines pour accentuer la perte de poids. Donc, tout ça provoque vraiment du désarroi chez les parents qui se sentent souvent impuissants. C'est pour ça que quand il y a une alerte, il faut en parler, ce qu'ont fait vos parents avec vous, et puis très, très rapidement orienter vers des structures spécialisées.
Alors, on va voir, Solène, si des jeunes étaient venus vous parler de l'anorexie au lycée ou au collège, si ça vous aurait aidé. C'est le fameux service sanitaire qui est mis en place en ce moment par le gouvernement. Et puis, on va s'intéresser à votre discussion dans le monde de la mode. Olivier Véran, vous allez nous raconter si on arrive à avancer. Je vous remercie beaucoup, Violaine, d'avoir été avec nous au 32-16. Et Anne-Marie, je vous recommande de nous attendre. Nous arrivons. Merci beaucoup. À tout de suite, 32-16.
RMC, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Nous parlons de l'anorexie aujourd'hui dans M comme Maïtena avec Solène Revol qui signe un document chez XO. Une petite voix me disait de maigrir encore avec cette ravissante photo, Solène, de vous en une de ce livre. Vous avez, c'est vous là maintenant, c'est vous aujourd'hui là.
Oui, c'est ça.
Bon, derrière, effectivement, on voit une photo de vous à 16 ans. Et ma belle, je suis heureuse de vous voir en couverture parce que vraiment, elle est difficile la photo que vous mettez en quatrième de couverture, Solène. Vous en avez conscience ?
Ouais, mais à la fois, je me dis que c'est pour plus atteindre, pour montrer les ravages,
ouais,
vraiment.
Ouais. Cette photo, vous pesez à l'époque 33,8 kilos hein, quand vous la prenez. C'est très... Ça frappe notre imaginaire collectif aussi. Ça nous renvoie aussi à des images qu'on a vues et qu'on ne veut plus voir. C'est aussi pour ça qu'on parle souvent d'anorexie qui touche 1% des adolescentes et parfois des adolescents. Olivier Véran est également avec nous. Olivier Véran est député. Il a bataillé pour faire introduire l'amendement Véran en 2015, vous étiez déjà député à l'époque, dans la loi santé qui interdit donc aux mannequins d'être trop maigres. Vous avez eu récemment une discussion avec le monde de la mode dont vous ne vous remettez pas, Olivier Véran, racontez-nous.
Oui, j'ai reçu un des responsables d'un des grands groupes de mode en France pour... en fait, j'avais contacté une maison de couture dont je peux citer le nom, là, c'était la maison Yves Saint-Laurent,
ouais.
Suite à des interpellations que j'avais eues, parce que dans le magazine de mode de printemps-été, si vous regardez les photos, c'est juste hallucinant. On voit les côtes des jeunes femmes sous la peau.
On rappelle les joues que depuis émaciées. Juin 2017, la loi est passée, la loi anti-mannequin.
Elle s'applique, la loi, et elle n'a pas clairement pas, en mon sens, été respectée. J'ai interpellé Yves Saint-Laurent qui ne m'a pas répondu. En revanche, j'ai un responsable d'une maison de mode qui est venu me présenter une charte de bonnes pratiques qui a été mise en place par l'ensemble des groupes de mode ou presque sur le territoire national, ce qui est bien.
Oui.
Une charte qui se veut aller plus loin d'ailleurs que ce que j'ai proposé dans la loi, donc c'est tant mieux.
Donc ça veut dire, parce que on peut plus défiler si on est sous la taille 32.
Ils prennent plus de taille 32, taille 32. Hein.
Ouais, 32,
allô, hein.
Oui,
32, hein, pas 42. Hein. 32, on parle d'adultes.
Ah, oui.
Ils font gaffe, ils veulent faire gaffe aux mineurs, etc. Mais j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que le poids des mannequins c'était aussi recroquevillé, pourquoi est-ce que sur les photos plus personne ne souriait, pourquoi est-ce que les visages étaient complètement
cadavériques,
émaciés.
Triste.
Il m'a été expliqué qu'en fait je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je vous en fais part, que les grands couturiers en ont eu marre à un moment donné d'être éclipsés par des mannequins vedettes qui étaient plus connus que les couturiers eux-mêmes. Donc ils ont décidé de rajeunir leurs mannequins pour qu'il n'y ait plus de vedettes. Et donc quand c'était 24 ans, après ils sont passés à 22, à 20, à 18, à 16. Donc à 16 ans, vous rentrez parfois dans du taille 32, mais les femmes un peu plus âgées qui, elles, voulaient continuer de travailler ont décidé
de... Les femmes de 18 ans, vous voulez dire, les vieilles dames,
n'ont pas eu d'autre choix, ou de 24 ans, n'ont pas eu d'autre
c'est
choix
dingue.
Que de maigrir pour pouvoir être, entre guillemets, concurrentiel par rapport à ces ados venus pour part des pays de l'Est. Et donc, ça a diminué énormément le poids moyen des mannequins. On m'a fait comprendre que c'était... j'ose à peine vous dire la phrase qui m'était sortie.
Je vous en prie.
Alors, on m'a dit, vous savez, elles sont pas toutes prix Nobel de littérature. J'ai été très énervé, très surpris.
Qu'est-ce qu'il faut faire,
donc,
monsieur le député?
Ça montre un peu le cynisme qu'il y a dans ce milieu et d'où on part. Ouais, donc moi j'ai expliqué qu'il fallait que la loi soit appliquée, qu'elle soit respectée. On m'a dit oui, il faut un petit peu de temps, vous comprenez, pour qu'on s'adapte et qu'on puisse faire face à l'évolution de la législation. J'aurais expliqué que si on diminue la vitesse légale sur la route et que on se fait arrêter par les gendarmes en excès de vitesse, on va pas leur demander un peu de temps.
Donc,
non, il y a pas de temps, ça suffit. Ce qu'on appelle l'anorexie chic, c'est-à-dire le fait de faire commerce de la mode sur la maigreur excessive, c'est ringard. C'est ça que le milieu de la mode doit comprendre. Ça ne vend plus. Les gens n'en veulent plus. Je suis inondé de messages à chaque Fashion Week où on m'envoie les photos des mannequins trop maigres en disant on n'en veut plus. Des pays étrangers censurent des campagnes de mode françaises. La maison Yves Saint-Laurent s'était fait censurer, par exemple, en Angleterre. Il faut arrêter.
Qui a légalisé elle aussi et qui est beaucoup plus sévère.
Davantage que la loi, c'est le fait que ce ne sera plus vendeur. Ce n'est plus vendeur aujourd'hui, l'anorexie chic. Et c'est pour ça que le milieu de la mode va, entre guillemets, se normaliser. Mais on part de très loin. Il a fallu vraiment, vraiment une réaction politique et qui est arrivée très tard. Et un cynisme quand même très fort dans ce milieu-là.
Quand vous entendez ça, Solène, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous entendez, il faut qu'on prenne des petites et qu'elles fassent pas concurrence. Et puis tant pis si elles sont maigres et qu'elles en meurent, quoi.
Je trouve ça juste horrible parce que c'est pas possible de dire à des jeunes filles, si tu veux être mannequin, faut que tu sois en mauvaise santé, quoi. Et de leur faire croire ça, je trouve ça horrible, sachant que forcément ça amène à un contrôle de la nourriture, et un contrôle de la nourriture, ça entraîne dans l'anorexie ou dans un quelconque trouble alimentaire. Et en fait c'est entraîner les jeunes filles là-dedans.
Ouais. Anne-Marie est avec nous au 3216. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Merci d'être là, bonjour. Merci d'avoir attendu, c'est adorable.
Oui, je vous en prie.
Votre jeune fille est tombée amoureuse, elle.
Absolument, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qui était pervers narcissique et qui lui a dit un jour, mais tu es trop grosse, tu es pas assez féminine. Et du jour au lendemain, elle a arrêté de manger. Ouais. Elle s'est mise à perdre 15 à 20 kilos en 3 mois. Ouais. On est dans un milieu médical. Hein. Mon mari est médecin, pédiatre. Mon fils est chirurgien du rachis. Ouais. Ma dernière termine son internat. Ouais. Au-delà de ça, on a vécu un cauchemar.
Mais
vous
l'avez identifié tout de suite, Anne-Marie, ou pas?
Non, parce qu'elle elle était dans Paris, dans un petit studio où elle faisait du droit.
Oui.
Et elle ne venait plus nous voir. Mmh. On était nous en province. Et le jour où elle est revenue, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle faisait à manger. Elle faisait de la gym à outrance. Elle était je suis trop grosse, je suis trop grosse. Par contre, elle était dans ses études extrêmement brillante, très très brillante, et toujours la maîtrise de soi.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que nous décrivait Solène tout à l'heure. Visiblement, votre fille a vécu la même chose, l'hyper maîtrise, l'exigence totale, la réussite. Comment elle s'en est sortie, votre fille, Anne-Marie?
Elle s'en est sortie. Et au grand bonheur, on l'a entouré. Nos amis, on a toujours été entourés d'amis, et qui ont fait passer le message en lui disant, tu es malade.
Ouais.
Il faut te faire soigner. Mmh, mmh, mmh. Il faut que tu ailles voir quelqu'un et que tu lui parles.
Ouais.
Donc, ça a été des psychologues, des psychiatres. Mmh. Elle en a choisi un qui correspondait à quelqu'un à qui elle pouvait parler. Alors, on sait vraiment, moi, en tant que mère, je me disais, je suis responsable, pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'un jour, je lui ai dit quelque chose qui a entraîné ça? Je téléphonais à ses amis, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous pouvez me dire où elle en est? Et le jour où elle a choisi ce psychiatre, je me suis dit, elle a fait un pas.
Anne-Marie,
est tombée en dessous des 40 kilos pour 1m75.
Ouais. Vous faites réagir Solène. Bon, les parents, ils ont leur place, ils servent d'alerte, mais c'est pas les parents qui peuvent aider, c'est ça, Solène?
C'est ça, oui. C'est les
médecins.
Les parents sont impuissants au final par rapport à la maladie.
Oui.
Mais ils peuvent au moins, même si ça fait mal à la personne, il faut lui dire, il faut qu'elle en prenne conscience. Et c'est comme ça qu'on on s'enclenche dans une guérison.
Le regard de la mode, le regard des garçons, le regard de la société, c'est ça qui pèse très lourdement sur tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 3216, Anne-Marie. Morgane est avec nous, et pour les quelques secondes qui nous restent, je voulais vous donner la parole, Morgane, parce que vous êtes en train de créer quelque chose de très important. Je vous écoute. Bonjour, Morgane.
Oui, bonjour, merci beaucoup.
On vous en prie.
Voilà, absolument. En fait, moi, j'ai 33 ans, j'ai souffert d'anorexie pendant une bonne dizaine d'années.
Mm-hmm.
Et puis, face aux difficultés qu'ont les soignants et les patients à mettre en place des protocoles de soins qui permettent vraiment de soigner les patients de façon pérenne.
Oui.
On a réfléchi donc avec d'autres patients, avec leurs proches et avec des soignants, à comment est-ce qu'on pourrait utiliser des outils numériques et mettre en place quelque chose qui permettrait aux soignants et aux patients d'avoir des meilleurs outils pour mieux comprendre la maladie, mieux comprendre quels sont les comportements, quelles sont les émotions, quels sont les contextes.
Donc une application pour les soignants, en fait, c'est ça?
Alors, c'est une application, en fait, qui va connecter le patient à l'ensemble de son équipe médicale. Parce qu'en fait, quand on souffre d'anorexie et de troubles alimentaires, on n'a besoin pas que d'un psychiatre, pas que d'un médecin généraliste, mais on a besoin d'une armée de médecins.
Ouais.
Un psychiatre, un généraliste, une nutritionniste, un endocrinologue, un psychologue. Et en fait, souvent, ces personnes-là ne se parlent pas forcément hors hospitalisation.
Bien sûr.
Et donc, là, l'idée, c'est de créer deux applications, une qui est pour le patient et une qui est pour le médecin, et qui crée une alliance thérapeutique. Ça veut dire que tous vos soignants sont connectés à votre... vous êtes patient, tous vos soignants sont connectés à votre profil, à votre compte de patient.
Ouais.
Et vous, en tant que patient, vous rentrez des données tous les jours.
Vous en êtes où, Morgane, là, du développement? Ça va sortir quand, votre application?
Fin mai, début juin.
Ça sera quoi? Payant, gratuit?
Ça sera gratuit. La première version sera entièrement gratuite. Elle sera disponible sur iOS et sur Android. Ça s'appelle Fileat. F2ELEAT.
Oui.
C'est créé avec Fileat. Et c'est créé avec une équipe médicale et des patients.
Merci infiniment, Morgane, d'avoir été avec nous au 32-16. Voilà qui a attiré l'attention d'Olivier Véran, qui va suivre Fileat d'un coin de l'œil. Merci, Olivier Véran, d'avoir été avec nous une fois de plus. Merci, Solène Revol. Je renvoie à votre livre Une petite voix me disait de maigrir encore. C'est un document qui est sorti chez XO. Nous allons maintenant recevoir deux hommes qui sont à la tête d'une boîte de 100 salariés. Ils se sont connus au collège et depuis, ils ont fait de la gourmandise leur fonds de commerce. C'est l'inverse. Michel et Augustin sont nos invités. À tout de suite sur RMC.
RMC, M comme Maïtena.
Deux prénoms.
Je m'appelle Michel.
Je m'appelle Augustin.
J'étais au lycée avec Augustin.
Ces deux cadres sub-trentenaires se sont lancés un défi. Vendre des yaourts et des biscuits avec un concept, le fait maison.
Car ici, il y a une règle.
Okay, donc c'est comme à la maison ici.
Utiliser que des ingrédients qu'on a tous dans notre frigo.
Parce qu'en fait, quand on prend un paquet de gâteaux, souvent, ils font un prix Nobel de chimie pour décrypter l'étiquette.
Les trublions du goût, c'est nous.
Maïtena Birabin.
Mais je vous jure, c'est quelque chose, ce studio. Bonjour, Augustin Pelmel-Marmont.
Bonjour.
Bonjour, Michel de Rovira. On dit jamais votre nom. Donc voilà, Michel et Augustin, c'est vous. Vous êtes les fondateurs de cette drôle de boîte. Et quand vous arrivez, alors vous déballez tous les produits. On a l'impression qu'on fait une vente à la maison. On dirait un truc Tupperware. C'est vraiment à mourir de rire. Vous vous êtes rencontrés tous les deux. Vous étiez en quatrième. Et ça compte beaucoup dans l'histoire de votre entreprise, Michel.
Mais oui, parce que avant tout, on n'est pas une marque, on est une aventure.
Ouais.
Et avant tout, on est une aventure autour de l'amitié.
Ouais.
Donc, monter une boîte avec un copain de lycée, je pense que c'est une vraie chance qu'on a.
Ouais.
Parce que je pense que ça donne une ambiance particulière à la boîte.
Mm-hmm.
Je pense que ça donne un niveau de confiance avec une personne qui n'est pas un associé, mais qui est un ami.
Ouais.
Et puis, je crois que ça donne un contenu, un fond à cette boîte. C'est pas seulement une histoire de biscuits, c'est une histoire, c'est une passion, c'est une envie d'entreprendre.
Ah,
et puis, c'est une envie de partager.
Il est super bon, Mike, il a toujours
été au top. Augustin m'a sorti 5 minutes, c'est la première fois que je viens à la radio.
Dis donc, bravo, vous avez bien fait de venir.
J'ai cartonné.
Vous avez hésité avant d'appeler votre boîte Michel et Augustin, il y avait d'autres noms possibles ou pas?
Non, il n'y avait pas d'autres noms possibles, parce qu'Augustin et Michel, ça sonne beaucoup moins bien.
Ouais.
Et donc c'était tout naturellement Michel et Augustin, et l'idée c'était pas
Ça aurait pu être les deux copains, mais ça aurait pu être la boulangerie.
Ce que dit Michel, nous c'est pas une marque, rien n'est inventé, c'est simplement partager ce qui nous anime dans la vie, c'est la passion de l'entrepreneuriat.
Comment vous pouvez faire pour nous convaincre que c'est vraiment du sentiment, que c'est, bien sûr c'est super, c'est une image marketing, mais que ça va au-delà de ça et que c'est sincère?
Écoute, là c'est hyper simple, c'est-à-dire tu toques et tu viens à la bananerie, tu vas voir, tout est ouvert, tu viens quand tu veux, tu parles à qui tu veux, tu ouvres les placards que tu veux, tu viens voir les essais en recherche et développement menés par l'équipe de pâtissiers qu'on a à la bananerie, donc honnêtement c'est total
la
transparence.
La bananerie, c'est l'endroit où vous êtes et
c'est
où
on s'épanouit, on rigole, on accueille, on teste plein de trucs, on se plante aussi, mais c'est, moi je crois que...
Mais en fait c'est une communauté, Michel Augustin, c'est ça?
C'est une façon
d'appréhender... Vous n'avez pas des salariés, mais des
trublions, mais c'est bien, t'as vachement bien bossé, les trublions.
Mais je te jure, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, avec votre image de marque et le marketing que vous avez développé, on s'attend à pouvoir rentrer dans des boutiques, Michel et Augustin. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Michel?
On ne l'a pas encore fait. Exactement.
Grosse annonce de Michel.
Attention.
Ça fait 13 ans qu'on a lancé cette aventure avec Augustin. Ça fait 13 ans qu'on vend des produits chez d'autres.
Oui.
Ça fait 13 ans qu'on se dit un jour, il y aura un point de vente Michel Augustin.
Oui.
Dans les rêves les plus fous d'Augustin, il y aura même une pension de famille. Et donc une forme d'hôtellerie, mais je crois que la structuration qu'on donne à cette boîte aujourd'hui, avec l'arrivée d'un directeur général, avec le renforcement de l'équipe de manière générale, devrait nous permettre à Augustin et moi de travailler sur des nouveaux projets.
Une boutique, des boutiques Michel et Augustin.
Exactement.
Et dans lesquelles vous vendrez quoi? Des choses qu'on connaît déjà ou des choses nouvelles?
L'idée c'est peut-être autour de la crèmerie et de la pâtisserie, d'inventer quelque chose de nouveau, toujours avec la même philosophie. Mais attends, moi aussi sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être français dans la pâtisserie et que on peut régner globalement dans le monde entier. Moi j'aime bien l'image, dire partout dans le monde où tu as une bouteille d'eau Evian, il n'y a pas de raison que l'aventure Michel Augustin n'ait pas une place à côté et fasse rayonner l'état d'esprit français, la qualité de la pâtisserie, notre savoir-faire.
Donc des pâtisseries Michel Augustin dans le monde entier avec
mais déjà ce qu'on a là, ce que tu as devant les yeux.
Mais non, vous le savez déjà.
Non, mais ce que tu as devant les yeux déjà,
alors,
c'est...
Alors je vous parle plus Augustin, je parle à Michel parce que lui il me dit des trucs. Alors Michel, la pâtisserie
demain 2018, 122 points de vente.
Oui.
2019, 148. Non, plus sérieusement, je crois que ça fait 13 ans qu'on réfléchit à un concept pour se dire on veut être plus proche, effectivement, de ceux qui
achètent,
des gourmands, qui consomment nos produits. Et
donc le. Ah, ensuite, quel est le concept exact? Est-ce que c'est.
Bon, ça ouvre quand? La première, c'est quand?
Vas-y, Michel, lâche le truc.
Vas-y. La première, c'est quand?
Non, ça sera 2019, avec un peu de chance.
En France?
Et en France, et comme dit Michel, c'est des comptoirs un peu crémiers pâtissiers, mais aussi cette histoire de faire une pension de famille où tout ce qu'on fait aujourd'hui, on puisse le faire en plus grand, en encore mieux.
Une pension de famille, ça veut dire qu'on pourra dormir dans la crèmerie?
Bien, pension de famille, on peut dormir.
C'est un mama shelter, version Michel et Augustin.
C'est un mama shelter mix pain quotidien, WeWork, atelier des chefs, Eric Kaiser. Tu mets tout ça claque dans le mixeur de la vie et tu retrouves la pension de famille Michel et Augustin.
Ok, messieurs. Danone, qui est devenu actionnaire depuis 2016 chez vous, ils sont d'accord avec ça? C'est plus tout à fait votre bébé, Michel et Augustin. C'est fini, ça.
Alors, si, c'est encore notre bébé.
Très clairement.
C'est Michel.
Emmanuel Favet en direct.
Quel patron de Danone.
Ils ont pris une participation chez nous.
Ouais.
Pour nous aider à grandir. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait, différemment de ce qu'ils font. Et je crois qu'ils l'apprécient. Et je crois que c'est à nous de montrer que moins ils nous touchent, plus vite on grandit. Et plus
parce
vite.
Parce que Danone, c'est pas une bande de copains sympas, c'est pas deux potes qui se font plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils veulent du rendement, de l'argent, c'est tout à fait.
Surtout, ils ont une certaine vision de l'agroalimentaire, une certaine vision du besoin de renouvellement, parce que bizarrement, l'industrie agroalimentaire est devenue un peu folle au cours des 30 dernières années.
Oui.
Et je crois que le programme qu'ils ont de faire revenir du bio, de faire revenir.
En vous achetant, ils achètent de la valeur? Ils rachètent de la valeur?
Ouais, ils nous donnent surtout les moyens. Et c'est nous qui sommes allés les voir. Hein. C'est que nous, on a envie de déployer ce que l'on fait encore mieux en France et partout dans le monde, et que tout seul avec Michel et moi, c'était compliqué. Alors on avait la joie d'avoir d'autres actionnaires avant, qui étaient la famille Pinault, super entrepreneurs, qui nous a vachement accompagnés. Donc quand on a un objectif, il faut prendre les moyens pour y arriver. Et donc Danone, c'est un super partenaire pour nous.
Quand on vend la sincérité et des valeurs d'entreprise, ce qui n'est pas, ce qu'on trouve pas tous les jours non plus sous le pied d'un cheval dans les entreprises en France, c'est forcément un point fort, mais c'est aussi un angle d'attaque. On se rappelle de L214. Avec leur fameuse punchline, là comme c'est bien, l'éthique c'est mieux, qui vous a fait passer arrêter les eaux de batterie. Ensuite, il y a eu François Fillon dans vos locaux, les anti-gays, la promalif. Tout ça, c'est quoi? C'est les valeurs qui agacent? C'est une cible facile? Vous avez tout démenti, hein, je refais, c'était long. Ou simplement, vous êtes de droite et c'est pas interdit par la loi?
Non, je crois que l'un des trucs dans cette aventure, c'est qu'elle est le reflet de ce que nous sommes, les femmes et les hommes qui l'animent au quotidien. Donc nous, on est engagés dans la cité.
Mais c'est quoi, juste? Justement.
Un des premiers trucs, c'est l'entrepreneuriat, d'être entrepreneur de sa vie. C'est nous, on croit qu'on a tous, au fond de nous, les talents de rendre sa vie riche, rayonnante, solidaire. Donc, je crois qu'on est acteur de nos vies.
Ouais.
Ça, c'est vachement important. C'est que nous, on est engagé dans la cité. C'est la solidarité aussi. Nous, on accueille plein de gens qui sont un peu des naufragés de la vie. On les forme au CAP pâtissier. Je crois que c'est plus qu'une entreprise. C'est une aventure qui incarne ce qui nous anime au quotidien. Et que c'est l'authenticité, de temps en temps, qui peut un peu déranger. Et après, honnêtement, on a été souvent manipuler, on nous tape dessus parce qu'on est une forme de symbole aujourd'hui. Donc il faut assumer. Donc on a reçu François Fillon, mais on a reçu aussi Fleur Pellerin, on a reçu Ségolène Royal. Donc on s'intéresse à tout. C'est parce que tu reçois quelqu'un, tu adhères à tout ce qu'il dit. Donc je crois qu'il faut. Moi, ce qui m'a beaucoup, en fait, ça a été assez dur, certaines choses que tu as mentionnées tout à l'heure. Et c'est que je crois qu'il faut, pas être violent. L214, ils nous ont sensibilisés à quelque chose, mais
sur les
la violence.
Batteries, vous avez arrêté
et on
utiliser.
A tout changé. On a appris avec eux. Mais
c'est
je crois que la violence,
ce que j'avais fait, c'est vrai.
La violence ne sert à rien.
Vous allez lancer des produits véganes. C'est de la conviction ou parce que c'est un marché à prendre?
Alors, moi, il se trouve que j'ai découvert il y a
vous êtes végane
deux ans. Non, j'ai découvert il y a deux ans que théoriquement j'étais allergique aux produits laitiers.
Ouais.
Et donc ça
théoriquement, ça veut dire quoi?
Oui, non, mais ça veut dire qu'en fait il y a visiblement beaucoup de choses qui sont racontées, dites et qui font que vous faites des tests qui coûtent une fortune.
Ah oui, ne les faites pas,
sur,
ça sert à rien.
L'intolérance alimentaire.
Ouais.
Et donc moi je suis sorti, on m'a vendu ce truc-là.
Ouais.
Je suis sorti de ce test et on m'a expliqué que j'étais intolérant à quasiment tout.
Oui.
Du lait aux noix de Saint-Jacques. Et aux biscuits à coque.
Et
aux fruits à coque.
Vous
êtes
mis à manger vegan.
Et donc, effectivement, moi, ça a changé ma manière de m'alimenter, et y compris certains produits de notre gamme, les yaourts à boire, je me suis retrouvé à beaucoup moins les consommer. Parce que, finalement, j'avais fait le test, et donc je me suis dit, est-ce que je suis vraiment allergique au lait?
Mais continue à nourrir Michel.
Et donc, c'est une première sensibilité de se dire, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité, une autre manière de s'alimenter?
Et moi, j'adore ta question, parce que, donc, on n'est pas dans l'opportunisme économique, parce que si on aurait été vegan depuis longtemps, même bio, je crois que c'est aussi la limite, mais la richesse de cette aventure, c'est qu'elle correspond à ce qui nous anime et ce que nous sommes, et qu'aujourd'hui, toi, moi, le vegan, j'étais pas particulièrement du tout vegan, on m'a fait goûter cette mousse vegan sans me dire que c'était vegan, c'est Delphine qui l'a fait, j'ai trouvé ça super bon.
Delphine, excusez-nous.
Delphine, c'est notre chef, une de nos chefs de produits qui est CAP pâtissier. Okay. Vive Delphine. Elle est en ce moment en première production de la gamme vegan en ce moment en Bretagne. Et moi, j'ai trouvé ça super bon. Et on m'a dit, tu sais que c'est vegan. J'ai dit, ah non, je savais pas. Et effectivement, tu sens une sorte de fraîcheur, de légèreté. Donc, je crois que c'est pas opportuniste. C'est en fonction de nos découvertes aussi, de nos sensibilités.
Vous le dites, beaucoup de chefs d'entreprise le disent, la réussite vient de l'échec. Ça vous est arrivé d'ailleurs. Hein. Vous avez créé une première boîte.
J'ai jamais compris l'activité. Voilà, exactement. Voilà.
Et qui finalement vous a rapporté plein d'argent.
Un peu d'argent.
Enfin, d'argent.
Mais c'est comment psychologiquement tu passes d'un échec où j'ai rien compris. Ouais. Ça avait été très compliqué humainement. À 2-3 ans après, on m'a un peu forcé à vendre mes parts. J'ai gagné de l'argent, ce qui m'a permis de quitter Air France en congé de création d'entreprise, de faire un super truc avec Michel, parce qu'on a testé notre binôme en devenant un peu les experts de la boulangerie en France, qu'on a visité les 1263 boulangeries.
L'idée, c'était
artisanales.
De faire un guide au départ.
On a fait un guide
de
référence, donc on est devenu passionné du pain. Ouais. Et effectivement, de l'échec, on parle jamais d'échec, mais toujours d'enseignement. Mmh.
Donc vous dites juste tous les deux aux petits jeunes qui veulent se lancer, vas-y mon vieux, c'est fantastique, ou tout doux bijoux, à tous ceux qui veulent y aller.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer. Ensuite, je pense qu'il y a peut-être une vague un peu trop forte de l'entrepreneuriat qui voudrait inciter tout le monde à être entrepreneur.
Et tout le monde ne peut pas.
Et tout le monde n'a pas forcément vocation à être entrepreneur.
Ouais.
Je pense qu'on a il y a aussi de très belles carrières ou de très belles choses à faire dans des grands groupes, que ça soit Danone, pour ne pas le citer, ou que ça soit Peugeot ou d'autres. Moi, j'ai un frère qui est chez Peugeot qui est heureux comme un pape.
On l'embrasse, hein. Il s'appelle comment?
Philippe. Qui nous a soutenus à l'époque. Hein.
Exactement.
Et ben, on embrasse Philippe. C'est fantastique.
RMC.
Je t'aime.
J'aime
pas trop beaucoup ça.
Alors, on a le temps d'un petit j'aime pas pour Michel et Augustin. Vous allez nous dire, Michel et Augustin, si vous aimez Monoprix qui est en vente sur Amazon désormais. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, ça, les produits Monoprix qu'on peut acheter sur Amazon, Augustin?
C'est une super idée. Déjà, Monoprix, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, ce qu'ils nous ont vraiment fait confiance dès le départ. Donc,
ils ont su
saisir ce talent créatif et entrepreneurial. Donc, super. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur d'Amazon. Il faut justement aller avec Amazon, essayer de les comprendre. Donc, c'est en avançant, c'est en n'ayant pas peur de ceux qui réussissent qu'on y arrive. Voilà, donc je trouve que c'est une super idée.
Donc vous
et cette nouvelle gamme est en exclu chez Monoprix.
Voilà. Venez, messieurs, dames, acheter les produits. Ils sont dans le studio, il y a une distribution, ils sont fantastiques. Vincent, tu es là.
Oh là là, Maïté là.
Mais quoi, oh là là, oh là là.
Voilà, Michel et Auguste, ça c'est vrai, l'artisanat, c'est un peu comme Jackie et Michel à l'ancienne, ça pétrit de la miche. On vous adore, Michel.
Ça
et
n'est
Auguste.
Pas
hey.
Possible.
Maïté là.
Franchement, je te jure.
Vincent,
mais oui,
chérie. On va revenir sur le foot, on va revenir sur tout ça. Écoutez, moi, super Moscato Show, ça va envoyer du pâté, de la miche.
Allez, il vient
de
se réveiller. Michel. Il va être au taquet dans une seconde. Le super Moscato Show, c'est à suivre. Merci beaucoup, Michel et Augustin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite bonne route. On attend vivement vos hôtels, je sais pas quoi là.
On va se
retrouver demain à 15h sur RMC. D'ici là, on va partir au bout du Nil pour découvrir la bifagile. Et comme d'habitude, tu sais quoi? On va s'aimer.
RMC, M comme Maïtena.